Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Nous sommes le dimanche 11 mai 2025, vous écoutez Radio SBS, c'est le programme en français SBS French. Messieurs, dames, bonjour, je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Exceptionnellement, ce dimanche, nous commençons par la rétrospective. Pour la rétrospective du jour, on remonte au 11 mai 1987, une plongée dans l'un des procès les plus emblématiques de l'histoire judiciaire française, celui de Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo à Lyon. Le 11 mai 87, c'est le jour où son procès a débuté, mais c'était bien plus qu'une simple affaire criminelle. Ce procès symbolisait les luttes pour la mémoire, la justice et la reconnaissance des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le récit de ce procès est signé François Vantôme.
Le 11 mai 1987, dans la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon, spécialement aménagée pour l'occasion, s'ouvrait le procès pour crime contre l'humanité de l'ancien chef de la Gestapo locale de 1942 à 1944, Klaus Barbie. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, comparaît pour la rafle de 86 juifs rue Sainte-Catherine au siège lyonnais de l'Union Générale des Israélites de France en février 43. Pour celle de 44 enfants juifs et 7 encadrants dans la colonie d'Izieux en avril 1944 et pour l'organisation d'un convoi de Lyon à Auschwitz le 11 août 1944. Ce sera le premier procès filmé intégralement pour témoigner devant l'histoire. Les débats seront suivis par les médias du monde entier. Extradé 4 ans auparavant de Bolivie, Klaus Barbie comparaît les premiers jours. Il raconte son adhésion aux jeunesses hitlériennes en 1933, puis au parti nazi en 1937, et détaille ses décorations et ses responsabilités. Mais dès la troisième audience, l'ancien nazi de 73 ans, défendu par Jacques Vergès, quittera le banc des accusés. Il refuse de comparaître, estimant qu'il est un citoyen bolivien victime d'un enlèvement et détenu illégalement en France.
L'audience est reprise. Service d'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que l'accusé a été extrait aujourd'hui ?
Monsieur le Président, je vous rends compte que l'accusé refuse de comparaître.
Bien, alors je commets Maître Desfournel, huissier de justice à Lyon.
Certains prétendaient que le procès venant 40 ans après les faits arrivait trop tard et qu'il ne servait à rien de rouvrir de vieilles cicatrices. D'autres estimaient que l'absence de l'accusé ôtait tout intérêt à ces audiences. Mais au final, il a fait l'effet d'une véritable catharsis nationale parce que jusqu'alors, les victimes ne parlaient qu'à demi-mot. Et le fait que Barbie ne soit pas là a été une chance quelque part qui a permis de braquer les projecteurs sur les victimes et pas sur son rictus. Jean-Olivier Villoux, substitut général pendant le procès Barbie, précise l'importance des témoignages des victimes durant ce procès.
L'enseignement majeur réside dans la parole des victimes. Et le procès Barbie, ça a été le procès de la parole des victimes qui ont restitué un vécu authentique qui est absolument indispensable pour l'opposer à tous les négationnistes qui pourraient aujourd'hui et demain continuer à sévir.
Le procès continue avec le témoignage de 90 rescapés des camps de concentration. Des femmes juives ou résistantes torturées par Barbie avant leur déportation parlent, souvent pour la première fois, des ongles arrachés, de supplices de la baignoire, des humiliations dans les camps et de la disparition de leurs enfants. Les débats permettent de mieux cerner la notion de crime contre l'humanité, imprescriptible depuis la loi du 26 décembre 1964, contrairement aux crimes de guerre. L'écrivain journaliste André Frossard, qui raconte les humiliations infligées aux Juifs à la prison Montluc à Lyon, où il a séjourné 8 mois, apporte cette définition. Il y a crime contre l'humanité quand on tue quelqu'un sous prétexte qu'il est né. Le président André Cerdini ne fait comparaître Barbie par la force qu'à 3 reprises, lors des 2 confrontations avec des résistants qui n'avaient pas pu avoir lieu lors de l'instruction, et une dernière fois pour la lecture du verdict. « Je n'ai rien à dire » est la seule réponse apportée aux victimes par l'ancien SS qui n'a jamais renié ses convictions et ne se départit pas pendant les débats d'un léger sourire. Le boucher de Lyon admet avoir lutté avec dureté contre les résistants, mais nie avoir ordonné la rafle des enfants d'Isieux malgré l'existence d'un télégramme de sa main ordonnant leur arrestation. Son avocat Jacques Vergès adopte une défense de rupture, fustigeant la notion de crime contre l'humanité qui ne vaut, selon lui, que si elle s'applique aussi à l'esclavage ou à la colonisation. Mais contrairement à ce qu'avait promis Maître Vergès, ni Barbie, ni les témoins de la défense ne font de révélations sur l'arrestation du chef de la résistance française, Jean Moulin, le 21 juin 1943 à Caluire, et sur sa mort peu après. Au terme de 8 semaines de procès, la justice française se prononçait pour la première fois sur un crime contre l'humanité et condamnait Klaus Barbie à la réclusion criminelle à perpétuité. Il meurt en prison 4 ans plus tard d'un cancer à l'hôpital de Lyon. Le procès de Klaus Barbie a ainsi ouvert des discussions sur la mémoire collective, le pardon et les efforts nécessaires pour construire un avenir sans oublier les leçons du passé. Ce fut un moment d'introspection pour la société française qui a dû affronter son propre passé et ses propres responsabilités. Notons que ce procès sera suivi quelques années plus tard de celui de Paul Touvier, ancien chef de la milice de Lyon, et surtout de Maurice Papon, ex-secrétaire général de la préfecture de Gironde durant l'occupation. En 1995, Jacques Chirac reconnaissait la responsabilité de la France dans la rafle du Vel'd'Hiv.
Dandine, dedans, dedans, ça dandine. Si ça ne t'ennuie pas, ça t'ennuie pas.
Jojoa et lieutenant Nicholson, danse divine. Restez sur SBS French, messieurs, dames. On marque une très courte pause et on se retrouve dans un instant pour parler de la participation de l'Australie à la première Coupe du Monde de viennoiserie. Ça se passera en novembre en France. Plus d'informations dans un instant.
Radio SBS. Les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation. sbs.com.au/french. SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Je suis dans nos studios de Melbourne avec Pierrick Boyer, le chef propriétaire de Rêverie Café à Prahan et Doncaster, également chevalier du mérite agricole depuis l'année dernière. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Pierrick, vous revenez tout récemment de Paris et de Dubaï. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Oui, alors c'était un trip, c'était très très court, 5 jours à Paris. Bon, déjà pour voir un petit peu la famille, faire le tour de quelques pâtisseries. J'ai eu la chance de passer 1 heure avec Monsieur Christophe Michalak, mon ancien chef, mon ancien patron, avant de venir en Australie. Et ça me remplit d'émotion parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, j'ai un énorme respect et j'ai beaucoup appris. C'était formidable et j'ai eu la chance, il a pris presque 1 heure où j'ai pu goûter plusieurs choses en salé et sucré et on a pu parler de business et d'autres et de vie personnelle et c'était génial. Après, à Dubaï, j'ai eu la chance, bon, j'ai travaillé encore au Plaza Athénée avec Christophe Devoile qui est le chef pâtissier exécutif du Royal Atlantis et je lui ai demandé, parce que son niveau de pâtisserie, de viennoiserie, de gâteau est ultra exceptionnel. C'est vraiment le top du top. Il a été élu pâtissier de l'année Goemio l'année dernière pour Dubaï et meilleur Haïti du monde. C'est exceptionnel. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais passer, voir comment ses chefs faisaient la viennoiserie et tout. Et puis, il m'a dit, pas de souci, bien sûr, avec plaisir. Et je suis venu la journée de 6h à 4h30, 5h. Et on a vu leur viennoiserie, tout ça. C'était superbe.
C'est bien. Donc, même à votre niveau, vous continuez toujours de vouloir apprendre.
Tout à fait. J'ai 50 ans, 36 ans bientôt de métier en juin. Faut se remettre en question. Il faut apprendre. Il faut être curieux parce qu'on peut toujours progresser. Et souvent, en pâtisserie, ce n'est pas que la recette, mais la façon et comment on fait la recette. Tout est question de température et de timing et de tout ça.
Dans quelques mois, en novembre, vous allez être de retour en France. Cette fois-ci, je pense que c'est à Vannes pour la Coupe du Monde de viennoiserie. Qu'est-ce que c'est?
Tout à fait. Alors, c'est la première édition c'est la première Coupe du Monde de viennoiserie à Vannes, au Salon du Chocolat. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire une année à la Coupe du Monde de viennoiserie et une autre année à la Coupe du Monde de pâtisserie. Ou faire ça en alternance avec d'autres grands événements comme ça, c'est une super initiative. Alors, c'est un gros travail d'organisation. Je pense qu'ils ont déjà, ils ont tous les juges, ils ont toutes les choses là. Après, pour ma part, c'est s'entraîner tous les jours, s'améliorer, et c'est que des détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que la viennoiserie, tu peux avoir la même recette, la même farine. Tu fais tout chez moi, ça va sortir superbe. Tu vas le faire dans une autre cuisine, fait par le même chef, le produit va être différent. Et ça, c'est très dur à faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas l'alchimie, comment la viennoiserie, comment le pain fonctionne. Parce que tout est question de température. Bien sûr que les ingrédients, c'est très important. Mais tout est question de température, de timing et de synergie. Et après, il y a le proving. Donc, en fait, on fait la pâte. Donc, il y a plusieurs méthodes de faire la pâte avec levain, sans levain, sourdough, pouliche, juste de la levure. Combien de temps elle va rester au frigo ou au freezer? En général, le même matin, on va laminer. Comment on lamine, si on donne des tours simples, des tours doubles, des demi-tours. Et il y a plusieurs techniques de lamination. Après, le proving time, c'est un certain taux d'humidité, de température. On a même une recette pour notre egg wash, pour notre dorure. Parce qu'il faut que ça soit ultra régulier. C'est pas juste on mélange ci, on fait ça et puis tout va bien. Quoi. C'est très, très, très précis. Quoi.
Vous allez être juge et coach à la
voilà.
fois.
Ah, donc je suis juge parce que je vais représenter l'Australie en coachant notre candidate australienne et je serai juge là-bas pendant la compétition. Alors bien sûr, je ne peux pas juger le candidat australien, c'est normal. Et tous les autres pays, donc on sera 12 ou 14 pour l'instant. Donc chaque pays jugeront les autres, sauf leur candidat respectif. Et il y a un autre panel aussi à la fin où c'est que des MOF, meilleurs ouvriers de France, des grands chefs qui vont juger le goût, l'esthétique. C'est très très pointu.
Et c'est plusieurs donc épreuves durant cette coupe-là pour déterminer qui est le gagnant ou la gagnante.
Oui, donc ça va se passer sur deux jours. Première journée, c'est faire les pâtes. Alors, il y a les croissants, pain au chocolat, croissants bicolores et de la brioche et de la pâte feuilletée. Et une pièce de display.
Grosse journée.
Oui. Donc, on va avoir, je pense, au moins une bonne semaine. On va pouvoir travailler chaque jour et refaire les recettes. Donc là, après, il va falloir que j'organise, qu'on m'envoie de la farine de là-bas, du beurre ou le beurre local. Après, si je ne peux pas avoir le beurre de la compétition, je suis obligé de prendre le beurre que j'utilise. Et puis, faire nos essais dans une nouvelle cuisine. Donc après, il va falloir faire... Et ce qui est intéressant avec le pain, la viennoiserie, des choses comme ça, que souvent, c'est un 2 or 3 day process. Ça veut dire qu'on fait la pâte un jour. Le deuxième jour, on la coupe. Sauf que là, on va avoir deux jours. Donc le premier jour, on fait la pâte. On va faire toutes les pâtes. On va avoir les temps de repos au frigo, au freezer, à température ambiante. Et après, le jour d'après, de bonne heure, la lamination, donc faire le laminage, le folding, and proving and baking. Donc, on ne peut pas se louper. Si on fait, je ne vais pas lire un gros caca, mais si on le fait, il n'y a pas de... Tu vois, il y a no safety net. On, on peut pas. Donc ça va être vachement intéressant. Et après, je pense que tout le monde va être bien préparé et que ben, ça se joue aux petits détails.
Vous parliez d'une concurrente australienne, je crois. Donc qui est la concurrente australienne?
Oh, l'Australian candidate. La candidate, donc en fait, oui. C'est une chef qui bosse, qui travaille à Rêverie avec nous à Praran. C'est celle qui fait la viennoiserie. Donc, c'est pas une concurrente, mais c'est plutôt une, je dirais, une équipe en fait. Parce que, ben, avec tout le training qu'on fait, qu'on va faire, tout est sur ses épaules. Parce que tous les petits détails, toutes les choses, va falloir qu'elle refasse exactement apprendre et va falloir qu'elle soit la meilleure. Ça va être dur parce que la France, il a gagné la Coupe de France de viennoiserie. Il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont faire la compétition. Et vu que c'est la première fois qu'on l'a fait dans le monde, c'était basé sur le contact et sur les gens qui pouvaient le faire. Donc, oui, je connais l'organisateur, mais faut pas se louper. Je sais que la France, c'est une très bonne équipe. La Belgique, très bonne équipe, parce que je connais le coach depuis plus de... je dirais presque 30 ans. La Suisse aussi, très bonne. Les États-Unis. Donc, moi, je pense que si on est dans les 5 premiers, c'est bien. Si on est dans les 3 premiers, c'est exceptionnel. Parce qu'il va y avoir de la grosse compétition. Quoi.
Et quel est le nom de cette candidate?
Nikita Pola. Elle travaille avec nous. Elle est indonésienne de Jakarta. Pour moi, c'était important d'avoir quelqu'un où on peut travailler tous les jours. C'est vraiment un travail de tous les jours. Pour s'améliorer et d'avoir un mindset de penser vraiment aux détails et de, quand on voit les choses, essayer d'analyser à notre niveau. On n'a pas toutes les solutions, hein. Et avancer et apprendre et faire mieux la prochaine fois. Après, ce qui est important, c'est que là, je suis en train de rechercher pour les sponsors parce que bon, bah, faut l'aller-retour en France. Il y aura quelques nuits de chambre, donc deux allers-retours, deux nuits pour gérer au moins 8 jours. Et ce que j'aimerais en plus de ça, c'est de faire du training à KL, parce qu'il y a quelqu'un de très technique de pousser dedans. Même il fait de la viennoiserie à la main. Hein. Nous, on utilise des sheeters, enfin des dough breakers, des laminoirs. Lui, il fait à la main et c'est un résultat exceptionnel. Donc, j'aimerais qu'on fasse un training avec lui, mais rien que le training de deux jours avec lui, nous deux et lui, c'est plus de, c'est 6 500 $, quoi. Bon, après, à KL, on y va en éco et tout ça, mais c'est un budget conséquent. Donc je recherche des compagnies pour nous aider à participer à ça. J'ai Wayne de Unox. Lui, c'est des fours qu'on utilise depuis très longtemps. Lui, il serait prêt à nous aider. Après, je suis en pourparlers avec une compagnie de beurre, une compagnie de farine aussi.
On se reparlera sûrement en novembre, mais si on veut vous suivre ce qui se passe là-bas, est-ce que vous allez nous tenir au courant sur Instagram? Est-ce qu'on va pouvoir suivre ça en direct?
Tout à fait. Alors, mon social media le plus actif, c'est Pierrick Boyer sur Instagram, que bien sûr, je vais partager sur Rêverie Café Melb, le shop Instagram. Après, je vais en poster aussi sur LinkedIn, parce que je suis sur LinkedIn, j'ai beaucoup de, c'est pas des followers, mais des links ou je crois que j'ai 30 000 ou des connexions de 30 000 personnes. Bon, on connaît pas tout le monde, hein. Sur Instagram aussi. Mais après, ça va être là où, après, j'ai mon Instagram perso qui est lié avec mon Facebook.
Pendant que vous êtes avec nous, Pierrick, si on peut parler brièvement aussi de Rêverie, est-ce qu'il y a des nouveautés ou des classiques qui sont toujours très populaires? Qu'est-ce que les gens aiment manger ou de quoi vous êtes particulièrement fier en ce moment chez Rêverie?
Ah bah, la viennoiserie en ce moment, elle est très bien. On peut mieux faire, ça c'est clair. C'est difficile parce que on peut pas avoir de moules. Avec la viennoiserie, on peut avoir des tartes moules ou des bases ou pain brioché ou des brioches, enfin des trucs comme ça. Mais c'est en général, tout est fait à la main. La critique est plus facile. Après, on fait beaucoup de gâteaux. On fait le Passion Brownie, qui est un gâteau que je fais depuis plus de 20 ans, qui est un peu mon signature cake. Je faisais au petit gâteau et je l'ai continué, je l'ai amélioré, je l'ai changé, je l'ai amélioré. Après, on fait beaucoup de Neapolitan cheesecake, de tiramisu. Puis on fait des events aussi à Praran. On fait des events. Doncaster, c'est très busy, donc c'est super. On fait le high tea aussi. On fait pas mal de high tea, et ça, c'est un super rapport qualité-prix, parce qu'on est, franchement, on est les moins chers sur Melbourne. On est à $60 par personne, et nous, on fait tout sur place.
On viendra vous voir bientôt chez Rêverie, et on garde l'œil aussi sur ce qui s'en vient en novembre avec la Coupe du monde de viennoiserie. Merci beaucoup, Pierrick, d'être venu nous visiter en studio.
Merci beaucoup.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/French.
Des grands yeux qui pétillent sur un regard de braise, une petite moustache fine, un large sombrero, une démarche masculine.
On l'a entendu hier, on la réécoute aujourd'hui, la voix de Dorothée Rascle, cette fois avec la chanson Tango Loco. Allez, on passe à une autre interview, celle d'un entrepreneur français, il s'appelle Romain. Il organise cette année la fête de la musique à Melbourne. Un challenge de taille, il nous raconte le défi.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Allez, aujourd'hui dans les studios, on a le plaisir d'avoir Romain. Romain, on le connaît surtout pour sa raclette Frenchie. Si vous êtes à Melbourne, si vous n'avez pas encore goûté à cette raclette, où vous avez été dans les dernières années, c'est pas possible parce que Romain est un peu partout. Bonjour Romain.
Salut Christophe, comment ça va?
Ça va impeccable. Alors oui, on vous connaît avec la raclette. Ça a été un peu votre dada pendant un petit moment. Là, on va parler de tout à fait autre chose. Fête de la musique. 21 juin, c'est un moment qui est important pour tous les Français. C'est quelque chose que si on a grandi en France, si on est passé en France, on sait ce que c'est, et vous dites, bon, ok, pourquoi pas ramener cette fête de la musique aujourd'hui en Australie, et on commence par Melbourne.
Voilà, c'est exactement ça, Christophe. En fait, c'est un projet déjà que j'ai depuis très longtemps, qui me tenait à cœur. Ça va faire à peu près 10 ans, mais la chose la plus importante, c'est comme d'avoir un lieu. Mmh. Et je galérais, j'ai eu plein de projets qui étaient... pas faisable ou trop cher.
Mine de rien, c'est compliqué de trouver un emplacement.
C'est primordial pour le projet. Et puis, je sais qu'il y a 6 ans, juste avant le Covid, il y a l'Alliance française qui avait commencé à en faire un pendant 1 ou 2 ans, je crois. Donc, je l'avais un peu mis de côté. Et puis là, après le Covid, l'idée, elle germait toujours dans ma tête. Et puis, complètement par hasard, il y a un mois, j'ai trouvé un lieu que je pense va être top. Et du coup, je me suis lancé, j'ai dit, on y va.
On y va, banco. Et le lieu, vous pouvez le dire déjà?
Ouais, le lieu, bien sûr, c'est juste en face du South Melbourne Market.
D'accord.
Alors, c'est pas un lieu qui est connu, je pense que les gens l'ont peut-être visualisé s'ils ont marché. C'est un deli un peu rétro qui fait très européen.
D'accord.
Qui est juste en face, qui a ouvert il y a un an. Et en fait, quand on rentre, il y a une espèce de petite cour, c'est vraiment à l'ancienne, c'est super mignon. Et ça fait un espèce de beer garden. Et du coup... à travers Frenchies, j'ai connu la propriétaire de ça par hasard.
Frenchies, c'est la raclette, on en parle.
Oui, pardon, mon business de raclette. Et du coup, on discutait et elle me dit « Ah, mais c'est moi qui ai ça ». Et du coup, j'ai pensé direct, j'ai commencé à lui en parler. Et c'est pour ça qu'on a commencé, quoi.
Alors, avant qu'on parle de l'avenir, donc de cette fête de la musique qui arrive, hein, c'est donc le 21 juin. Fête de la musique, pour vous, ça veut dire quoi? Parce que ça résonne dans, on est à peu près le même âge, vous et moi, ça veut dire quoi?
Ouais,
c'est le bal des pompiers, c'est plein d'amusement, quand même.
C'est l'idée que je vais essayer de refaire ici. Moi, là où j'ai grandi à Paris, en tout cas, il y a deux événements que je trouve un peu particuliers. Dans mon quartier, c'est la fête de la musique et le bal des pompiers du 14 juillet. Pourquoi? C'est parce que on avait toutes les classes sociales et toutes les générations qui étaient mélangées dans notre quartier. Et c'était une atmosphère
Donc là, on voit
cool
les plus vieux danser avec les plus jeunes.
Exactement.
Ça danse sur les tubes des années 70.
Mes parents dansaient avec les petits jeunes, les riches, les pauvres, tout le monde ensemble. Et c'est ce que je voudrais recréer ici un petit peu, mais à l'échelle australienne. En gros, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un backpacker avec un expat, un étudiant, un chef d'entreprise, un Uber driver, tout le monde ensemble. Et puis pour célébrer, la culture française, elle est quand même très forte. Je pense que quand on vient et qu'on s'installe ici, on se rend compte que notre culture est très forte et elle est profonde en nous.
Elle manque assez vite, hein, quand même.
Ouais, de dingue. Ouais.
Faut réaliser quand même ça.
Et
ça manque assez vite.
C'est pour ça, c'est pour se remémorer tout et fêter ensemble. Alors bien sûr, tout le monde est la bienvenue, hein, mais c'est vrai que je m'adresse en premier aux francophones, on va dire. Parce que la playlist, elle va être 100% française. On va essayer de mettre tous les classiques avec lesquels on a grandi. Et il y aura beaucoup de références à la France, ouais. D'accord, après, tout le monde est bienvenu, bien sûr.
Ouais, bien sûr, mais bon, il y aura aussi la Belgique, il y aura Benibi, il y aura.
Benibi, pourquoi pas. Ouais.
Benibi, les Belges.
C'est Céline Dion.
Ah, d'accord.
Qui est canadienne.
Canadienne, québécoise. Ouais.
Je cherchais un Suisse, mais ça va être un peu plus.
Si, Stéphane Escher.
Ah, oui, Stéphane Escher.
Ça se danse pas trop, par contre.
Ouais, c'est vrai.
Ça se danse pas trop. Bon, alors, on a le lieu, on a la date.
Ouais.
Comment ça se passe pour réserver? Je crois que c'est déjà un peu ouvert. On peut. Enfin,
c'est aussi
l'idée du projet, c'est que le projet, il est organique et en gros, il va se faire s'il y a du monde qui vient.
Non, bah là,
il va se faire, je peux
déjà dire, ouais. Mais le lieu, la sécurité, le DJ, le matériel, tout, c'est pas gratuit. Donc, on a mis un système de prévente en place. Mais pour vraiment que ce soit accessible à tout le monde, franchement, on a vraiment mis des trucs accessibles et bon marché pour tout le monde.
Ça m'a surpris, moi, quand j'ai vu le prix.
Écoute, j'espère que du coup, les ventes vont suivre. Je vais pas vous mentir, je pensais que ça décollerait un peu plus, même avec le bouche-à-oreille autour de moi. Mais bon, ça met un peu de temps et je pense que les Français, on est un peu comme ça. Faut nous secouer un peu, on est un peu toujours dernière minute, je suis le premier comme ça.
Ouais.
Mais du coup,
c'est un style de vie. Hein.
Ouais.
Ça énerve les gens, mais c'est un style de vie.
Mais maintenant que c'est moi qui suis de l'autre côté, là, tu vois, je me dirais pour la prochaine fois, oui, j'achèterai mes choses à l'avance. Mais du coup, ouais, les premières préventes sont à $9, donc vraiment, vraiment accessible. Et puis après, ça va monter à 13. Et les dernières, les 100 dernières places sont à $17. En gros, il y a 330 places. Et là, il reste une 25 places à $9 de disponible.
330, ça commence à être un beau chiffre quand même. Hein.
C'est
une belle fête déjà.
Ça pourrait être très sympa. Surtout que le lieu, il n'est pas si grand que ça, donc ça va être challenging avec l'espace. Mais justement, ça va être. Je pense que ça va être bonne ambiance, justement. Si on est un peu. Ah, faut pas être trop serré, mais que tout le monde. C'est que tout le monde soit les uns sur les autres et tout. Ça peut. Quand il y aura la musique, tout le monde va danser. Enfin, c'est l'idée. Hein. C'est que tout le monde finisse par chanter les chansons qu'ils connaissent et danser. Ouais, ça devrait être sympa.
Est-ce qu'il y aura de la raclette aussi?
Il y aura de la raclette, ouais. Conflit d'intérêt.
Faut faire venir l'intérêt. Ouah, c'est pas un conflit d'intérêt. À la base. Hein,
alors oui, ce qu'il y aura, au niveau, à côté de la musique, bien sûr, il y aura un stand de raclette, donc Frenchies qui va venir. Il y aura un stand de crêpes. A priori, ce sera la louche. Elle doit me confirmer, mais elle devrait venir. Et j'ai la special guest star qui vient, c'est France Atome.
D'accord, Sandra Hydra.
Enfin, Sandra, elle sera en France, mais il y a France Atome qui va venir, qui va faire sa petite épicerie. Et en gros, je sais que moi, je les ai déjà vus, je les vois sur les marchés. Dès qu'il y a des Français, on est tous comme des zombies sur le stand de France Atome. Et donc, l'idée, c'est que, en plus de danser, de chanter, d'avoir toutes les références à la France, de manger une petite raclette, d'avoir une crêpe, on pourra faire un petit shopping, acheter des petits écoliers napolitains.
Voilà, soit partir avec un kebab ou se les faire livrer.
Ils feront un système, je pense, où vous pourrez aller faire votre panier et le prendre à la fin de la soirée.
D'accord, ok. Il y a un vrai petit réseau hein, entre vous. Hein. C'est un réseau de la, je ne vais pas dire la francophonie, mais c'est du bon vivre à la française. Quoi.
Entre nous, Christophe.
Ouais, c'est sûr.
Entre nous tous. C'est vrai que la communauté française, elle n'est pas si grande que ça sur Melbourne. Et puis, surtout nous qui faisons les marchés, ouais, on est une petite famille parce qu'on se voit tout au long de l'année, hein, c'est vrai. C'est vrai.
Et vous dites que c'est beaucoup ouvert aux Français. Où est-ce qu'on peut trouver l'information pour avoir plus d'infos et potentiellement réserver si on veut le faire?
Bien sûr. Alors, du coup, là, je suis un peu sorti de ma zone de confort là, sur le marketing et les réseaux sociaux. C'est pas trop mon truc. Mais alors, on a créé une page Instagram, la fête de la musique Melbourne. Et on a aussi une page Facebook et un événement Facebook. Si vous tapez la fête de la musique Melbourne, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, vous allez directement trouver. Et il y a bien sûr le lien pour l'événement et bien sûr essayez de prendre votre place dès que vous pouvez parce qu'en fait nous ça nous aide en amont pour travailler sur le projet, pour anticiper le nombre de gens et puis pour le bon fonctionnement de la soirée.
Et surtout c'est pas forcément savoir si ça va se faire, c'est si ça va on peut le faire mieux.
Oui,
plus il y a de monde, plus il y a.
Et puis pour anticiper aussi pour l'espace,
pour
tout et puis aussi nous pour le budget parce que c'est important et puis oui parce que là le budget il est un peu ric-rac, mais oui, plus les gens vont acheter, plus on va essayer de développer la chose en fait.
On sent que l'Australie pour vous êtes bien épanoui quand même. Ça fait un moment que vous êtes là, vous avez quand même fait pas mal de choses un peu en dehors des circuits, des sentiers battus quand même.
Ouais, bah alors ça fait.
Vous réfléchissez à ça des fois?
Ça fait 15 ans que je suis là.
Ouais.
C'est vrai. Alors je suis très content ici, mais je dois avouer que la France me manque beaucoup aussi.
D'où les petits écoliers?
D'où les napolitains, les petits écoliers, la raclette, la fête de la musique, le PSG.
Ouais, voilà.
Faut que je le place, désolé. En fait, la France me manque énormément. Au début, moi, ça a été très difficile. Mais maintenant, je pense que je suis en paix avec moi-même. Je suis bien ici. Et je pense que je suis, enfin ça me fait du... je rentre tous les ans en France de toute façon et je pense que ça me fait du bien que ça me manque. Parce que de toute façon, je pense que si je rentre à Paris, au bout de 6 mois, je me demanderai ce que je fais là.
Ouais, voilà. C'est, on est tous les mêmes. On rentre, c'est l'été, il fait beau.
C'est ça.
Faut aussi, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, faut aussi supporter Paris au mois de novembre, quand il pleut et qu'il fait nuit à 5h30. C'est pas le même vibe.
C'est toujours aussi ce que je dis à mes amis qui rentrent et qui sont là, ah, c'est vrai que c'est bien en France. Je dis, ouais, mais quand on rentre, on n'a pas forcément la vraie vie. On a une espèce d'image d'Épinal, des vacances où on travaille pas.
Exact.
On est bien,
mais... on n'a pas un chef français. Ça, c'est autre chose. Merci, Romain, d'être passé.
Ouais, pas de souci.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Que le geste de l'adieu
Charles Aznavour sur les ondes de Radio SBS avec ce titre « Parce que tu crois ». À tous les backpackers qui nous écoutent, cette séquence est pour vous. Un service postal qui vous est dédié, ça s'appelle HePost. Et ça vient faciliter votre vie, car le problème d'être backpacker, eh bien, c'est justement de ne pas avoir d'adresse fixe. Alors, comment ça fonctionne ? Réponse tout de suite.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Bien aujourd'hui dans le programme, on va parler de quelque chose qui embête bien des gens, des jeunes, des nomades, des backpackers. C'est l'histoire d'avoir une adresse fixe. Et on parle à Diego Filippozzi qui a peut-être trouvé la solution à tout ça. Bonjour.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va, impeccable. Alors vous, vous avez créé votre business. Hein, on le voit derrière vous, si on regarde la vidéo, c'est HePost. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez sourcé le problème et comment vous avez réfléchi et pensé à une solution.
En fait, ça part de ma propre histoire. Donc, je suis arrivé en 2018 comme backpacker. Et à l'époque, j'ai eu de la chance parce que je suis venu avec un petit morceau de papier où il était écrit un numéro de téléphone et un nom d'une cousine à ma grand-mère d'origine italienne dans le Victoria. Et donc, quand je suis arrivé dans le Victoria, je les ai appelés et la chance, c'est qu'ils n'habitaient pas trop loin et qu'ils ont accepté de me rencontrer. Et donc, de là, dès mon arrivée en Australie, j'étais déjà un peu préoccupé comme par rapport à cette question-là, comment recevoir mon courrier, étant donné que je vais partir travailler dans les fermes et puis je vais voyager autour de l'Australie. Et à l'époque, ils avaient gentiment accepté que j'utilise leur adresse postale. Et donc, ça a commencé comme ça. En fait, c'était fantastique parce que donc, je pouvais utiliser leur adresse postale, ils recevaient mon courrier et ils m'informaient à chaque fois que quelque chose arrivait.
La clé, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on est nomade, un des problèmes, même en 2023, on reçoit encore des courriers importants en papier. Je pense les visas, je pense les reçus de les relevés de bancaires. Enfin, il y a plein de choses qu'on reçoit encore physiquement en papier. Même si c'est de moins en moins, ça reste très important.
Oui, en effet. Donc, parlons des choses principales. Le TFN, la carte bancaire, éventuellement le certificat de police, donc le National Police Check. Qu'est-ce qu'on a aussi
Le Working with Children, par exemple. Il y a plein de choses qu'on reçoit physiquement.
Tous nos tickets également, la WICA, la RSA. Et donc, finalement...
Les amendes aussi, il faut le dire. Malheureusement, mais les amendes aussi.
C'est la chose primordiale. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est comment ce qu'on fait, nous, pour continuer à profiter de cette aventure, c'est-à-dire de passer éventuellement de ferme en ferme ou un jour être dans le Victoria, le lendemain être dans le Western Australia, tout en pouvant continuer à recevoir... notre courrier. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin? Ce que faisait tout backpacker, c'était, on arrivait en Australie, on était logé dans une auberge de jeunesse, on utilisait l'adresse postale et résidentielle de l'auberge de jeunesse, on commençait nos premières tâches administratives, et puis on partait. Mais le courrier arrivait toujours à l'auberge. Et nous, on n'était jamais au courant qu'il y avait du courrier qui arrivait. Et puis malheureusement, on avait des blagues. Quoi. Et des blagues qui n'étaient pas très agréables parce qu'elles coûtent assez cher. Et donc, l'idée, ça a été qu'une fois que j'ai pu expérimenter cette expérience-là avec ma famille, mais à un moment donné, c'est arrivé à son terme. Il a bien fallu que je me débrouille par moi-même. Et j'ai observé un peu ce qu'il y avait sur le marché australien. Et il n'y avait aucun service postal qui nous suivait dans notre aventure. C'est-à-dire, par exemple, la poste australienne met à disposition des PO Box, donc des adresses... postal, mais il faut à chaque fois se déplacer jusqu'au bureau postal pour obtenir son courrier. Alors que nous, on n'a pas le temps, en fait, et on est toujours à gauche, à droite, on suit les saisons, on suit les opportunités. Et pour nous, c'est un calvaire si on devait à chaque fois changer d'adresse et passer d'une adresse d'un bureau postal à l'autre, d'un état à l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce service postal. Et c'est important de différencier l'adresse de résidence et l'adresse postale. Moi, j'offre une adresse postale, c'est-à-dire que personne ne peut prétendre utiliser mon adresse comme adresse de résidence. Personne ne vit dans mon bureau. D'accord? C'est une chose qui doit être claire et c'est mentionné aussi dans les termes et conditions. Et donc, finalement, en ayant une seule et unique adresse postale en Australie, dès son arrivée en Australie, ça permet de s'assurer de toujours recevoir son courrier. En fait, son courrier va arriver chez moi, chez e-post. Et moi, je vais pouvoir, une fois qu'ils acceptent les termes et conditions, et la première condition, c'est de me permettre d'ouvrir leur courrier. Eh bien, principalement, je l'ouvre, je le scanne et je le renvoie par email. Et je le renvoie par email via un système de PDF sécurisé, c'est-à-dire que je leur donne un mot de passe et chaque document est protégé par ce système de PDF avec mot de passe. Donc, même si éventuellement quelqu'un venait avoir accès à leur messagerie électronique, personne n'aura accès à leurs documents et à leurs données.
Ça, c'est important parce que de plus en plus, on parle, et quand on est, bon, on va parler des jeunes, hein, les backpackers, c'est beaucoup des jeunes, il y a la notion de privacy en anglais, donc il y a toute cette protection qui doit être en place. Et si je reçois un document physique, on parlait tout à l'heure, une copie de mon Working with Children, par exemple, est-ce qu'il y a moyen pour vous d'envoyer aussi physiquement quelque part si je vous dis, bah, aujourd'hui ou pour les 15 prochains jours, je suis à telle adresse?
Oui, tout à fait. En fait, excepté la carte bleue, la carte bancaire, je scanne tout document et je le renvoie directement par email. Comme ça, au moins, ils ont une copie de ce document-là. Et puis, par la suite, je les appelle et je demande, voilà, où est-ce que tu te trouves actuellement? Et certains me disent, ah, maintenant, je suis dans le Queensland. Et donc, à ce moment-là, je mets leur document physique dans une enveloppe sécurisée et recommandée et je le renvoie à l'adresse demandée avec un système de traçabilité. Comme ça, ça leur permet de suivre l'expédition.
Alors, c'est intéressant parce que vous êtes venu donc voyager en Australie. Au final, on se parle là, vous êtes toujours en Australie et vous semblez avoir trouvé aussi votre voie. Est-ce que l'Australie, pour vous, c'est aussi ça? Vous auriez jamais pensé, quand vous étiez dans l'avion de la Belgique à l'Australie, de vous dire, ben, je vais y faire ma vie ou je vais y créer mon business. Ou, mais le pays vous a donné ça aussi.
Ah, tout à fait. Écoutez, quand je suis arrivé, j'avais déjà la trentaine, donc j'étais déjà peut-être plus mature, on va dire, et puis j'avais déjà une expérience professionnelle derrière moi. Donc, je suis peut-être arrivé en Australie de manière différente. Bien sûr, je venais en étant conscient que finalement, il allait falloir que je passe par ce travail en agriculture et puis expérimenter un peu ce que l'Australie a donné. Mais oui, j'aurais aimé et j'espérais peut-être trouver quelque chose qui me permette de rester. Et là, je pense premièrement que ce service postal-là, et c'est grâce finalement à l'Australie, parce que c'est pas un service postal ou une idée que j'ai créée. Ça existe dans certains d'autres pays. Ça existait ici également. Ça existe au niveau des sociétés, mais pas nécessairement des personnes physiques et pas nécessairement pour les backpackers et pour les voyageurs. Et c'est pour ça que j'ai pu observer cette opportunité due à ma propre histoire, mais également observant, alors des fois dans des auberges, et voir la quantité de courriers qui étaient délaissés là-bas. Et donc, voilà.
Et c'est vrai qu'au niveau, vous parlez de la sécurité, on va finir là-dessus, mais la sécurité d'envoyer des documents sécurisés, etc. Quand on reçoit des documents bancaires dans une auberge, et qu'on a, alors je critique pas les jeunes, mais quand on a une vingtaine d'années, on se rend pas compte à quel point ça peut être grave, en fait, de donner, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations et on peut extraire pas mal de choses d'une banque simplement en ayant un relevé de compte qui est pas forcément le sien, mais on peut voler les identités. Donc c'est important de pouvoir rester sécurisé à tout point de vue, notamment pour les documents type relevé de banque.
Tout à fait. Et écoutez, étant donné comme justement la plupart des backpackers qui arrivent en Australie sont assez jeunes et n'ont pas nécessairement des fois cette maturité.
Ça s'appelle l'insouciance. Hein. Ils ont cette insouciance voilà, encore.
Tout à fait. Et justement, étant donné que je suis plus âgé qu'eux, ben je leur offre cette sécurité-là. En fait, e-post, c'est pas une boîte postale, c'est la sécurité d'avoir quelqu'un qui veille sur vous, sachant que vous recevez toujours vos courriers, que vos courriers arrivent dans un endroit sûr, et que je suis là pour m'assurer que je vous donne la chance, par exemple, au niveau des amendes. Moi, je vous ma responsabilité, c'est de vous l'envoyer le plus rapidement possible. Votre responsabilité, c'est de la payer ou pas dans le délai afin de ne pas recevoir un montant supérieur ou de devoir être invité à vous présenter au tribunal parce que vous n'avez jamais payé vos amendes. Et voilà, mon but, c'est de rééviter d'avoir des problèmes administratifs, financiers et légaux en Australie.
Absolument, c'est cool en tout cas comme système. Merci Diego d'être venu nous parler sur SBS.
Ben, merci à vous, au plaisir.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Puisqu'il faut tout ramener à l'amour, se méfier de nos colères et de là où elles nous emmènent, s'accrocher à l'instinct de vie, juguler l'instinct de mort, garder la lueur, garder la lumière. Oser le calme, oser le doux, hausser la voix pour oser l'amour. Tout doit revenir à l'amour, oui, tout doit se laver de l'amertume.
Ghislain Haine chante « Tout à l'amour ». Pour terminer cette émission, on va aborder l'épineux sujet du « Closing the gap ». L'Australie a l'une des espérances de vie les plus élevées au monde, en moyenne 83 ans, sauf pour les aborigènes, les insulaires du détroit de Torres. Pour eux, l'espérance de vie est inférieure d'environ 8 ans. Alors « Closing the gap », c'est un accord national conçu pour changer ça. On en parle maintenant.
L'Australie est un des pays les plus avancés au monde en matière d'espérance de vie. En moyenne, les Australiens vivent jusqu'à environ 83 ans, mais pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, l'espérance de vie est inférieure d'environ 8 ans par rapport au reste de la population. Closing the Gap est un accord national conçu pour changer cela. Il vise à améliorer la santé et le bien-être des Australiens des Premières Nations afin qu'ils puissent bénéficier de la même qualité de vie et des mêmes opportunités que les autres Australiens. Alors, comment Closing the Gap a-t-il commencé? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qui a changé en 2020 et où en sommes-nous aujourd'hui? Tout a commencé en 2005 lorsque le professeur Tom Calma, un aîné aborigène, a présenté un rapport historique sur la justice sociale. Il y a appelé à l'égalité en matière de santé pour les aborigènes et les insulaires du détroit Torres en une génération, soit 25 ans. Son rapport a suscité un large soutien public et en 2007, des Olympiens célèbres comme Cathy Freeman et Ian Thorpe ont rejoint une nouvelle campagne.
I'm not here to talk about the injustices. This is about what we are able to do today together to help each other, help one another. And I think Thorpe and I are here as an example of what you can do when you bring out the best in yourself. And you stand proud and you stand strong.
Puis en 2008, le Premier ministre Kevin Rudd a officialisé la stratégie Closing the Gap. La même année, il a également prononcé les excuses nationales aux générations volées. La stratégie initiale, Closing the Gap, portait sur 7 domaines clés tels que l'espérance de vie, la mortalité infantile, l'éducation et l'emploi. L'objectif était d'obtenir des améliorations mesurables en 10 ans. Et chaque année après le lancement, le Premier ministre en place présente un rapport sur l'état d'avancement.
For 12 years, I have sat in this chamber and listened to Closing the Gap speeches. It's a tale of hope, frustration and disappointment. A tale of good intentions, indeed good faith, but the results are not good enough. This is sadly still true. We perpetuated an ingrained way of thinking, and that is the change we are now making, together with Indigenous Australians through this process.
C'était l'ancien Premier ministre Scott Morrison en 2019, plus de 10 ans après le lancement de la stratégie. À ce moment-là, il était clair que les choses ne fonctionnaient pas. Seuls deux des objectifs initiaux étaient en bonne voie et l'écart d'espérance de vie recommençait à se creuser. Ce moment a marqué un tournant. La stratégie a été réformée et renommée Accord national sur Closing the Gap et l'accent a été déplacé, passant des solutions dirigées par le gouvernement à des véritables partenariats avec les communautés autochtones. Un groupe appelé la Coalition of Peaks, composé de plus de 80 organisations autochtones contrôlées par la communauté, a été formé pour co-concevoir la nouvelle approche. L'idée est simple, les politiques ne doivent pas être élaborées pour les communautés, mais avec appelle. Le nouvel accord a fixé 19 objectifs spécifiques à atteindre d'ici 2031. Parmi ceux-ci, les enfants naissent en bonne santé et forts, les élèves atteignent leur plein potentiel d'apprentissage, moins de jeunes gens dans le système de justice pénale. C'est une approche plus large et plus holistique qui ne se concentre pas seulement sur la santé, mais aussi sur le logement, la justice, la culture et la participation économique. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Presque une génération s'est écoulée depuis l'appel au changement de Tom Kalma. À l'époque, l'écart d'espérance de vie entre les Australiens autochtones et non autochtones était de 11 ans. Aujourd'hui, il est d'environ 8 ans. Mais de façon inquiétante, la tendance repart dans la mauvaise direction. Selon le dernier rapport de la Productivity Commission, des progrès ont été réalisés. 11 des 19 objectifs ont vu des améliorations, mais seuls 5 sont actuellement sur la bonne voie. Certains signes sont encourageants. Plus de bébés naissent avec un poids sain et plus de jeunes terminent la 12e année scolaire ou un diplôme équivalent. Mais d'autres domaines, comme les taux de suicide et d'incarcération des adultes, se détériorent. Comme le dit Pat Turner, femme Karanji Arante et coordinatrice de la coalition des PIC.
We need to stick at it. Closing the gap is more about statistics. It's about real lives and strong families and brighter futures. It's about assuring that our children grow up to be healthy and proud and connected to their culture.
Cet épisode d'Australia Explained a été produit en anglais par Loana Grant, executive producer de NITV Radio, et traduit en français par Bertrand Tungandami.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez la retrouver en intégralité ou en partie sur sbs.com.au/french ainsi que sur les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi. Même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer une très belle fin de week-end. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.